Bonjour Karim Amelal.
Bonjour.
Vous êtes également co-auteur du rapport visant à renforcer la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Mission qui vous a été confiée par le président de la République Emmanuel Macron. Rapport qui a été remis en septembre dernier au Premier ministre Édouard Philippe. Tout d'abord, quelles sont vos conclusions sur ce qu'on appelle la cyberhaine ?
Nos conclusions, c'est que c'est un fléau, la haine en ligne, qui se déploie sur des plateformes qu'on connaît bien, plateformes de réseaux sociaux, mais pas que, qui se déploie aussi sur des blogs et sur plein de sites internet, et quelque chose qui prolifère pour tout un tas de raisons, l'importance des réseaux sociaux dans nos vies, la question de l'anonymat, le fait que sur internet, on a plutôt tendance à se lâcher, beaucoup plus que dans la vraie vie, entre guillemets, même si ces distinctions sont pas forcément aujourd'hui très pertinentes. Donc c'est un fléau qui prolifère. On a une législation en France, plus généralement dans l'Union européenne d'ailleurs, qui est en grande partie obsolète. Rendez-vous compte que la loi qui réglemente ou qui encadre les plateformes date de 2004. C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et 2004, c'est avant même l'arrivée de Facebook en France. Donc tout ça est très vieux. On a des outils qui sont plus adaptés. On a un fléau qui n'est pas que virtuel, hein, qu'il faut bien avoir ça en tête, puisque il y a des passages à l'acte, il y a des gens qui s'intoxiquent en ligne pour tout un tas de raisons. C'est lié aux algorithmes et au pouvoir de ces algorithmes dans nos vies et sur nos consciences. Et puis il y en a qui, brutalement, vont passer à l'acte. La question des actes antisémites, évidemment, qui explose. La question des actes racistes, anti-musulmans, anti-migrants. L'autre chose qui est très importante, et ça a été un élément fondamental de notre démarche en conduisant cette mission, c'est que la haine, ça concerne tout le monde. C'est pas uniquement certaines catégories de personnes. Et je suis très heureux que le président de la République ait annoncé la semaine dernière
au dîner annuel du CRIF.
Exactement, le fait que cette loi allait allait reprendre en très grande partie nos propositions et en particulier notre approche qui est une approche inclusive, ça concerne tout le monde, toutes les victimes de la haine dans ces différentes manifestations, qu'elles tiennent à l'origine, à la religion, à l'ethnie, à l'orientation sexuelle, au genre, etc., sont concernés et donc seront concernés par la loi à venir.
Rapidement, quelles sont vos propositions justement pour lutter contre ce fléau ?
Un système de retrait avec un délai pour les plateformes lorsque il y a un contenu ou un propos qui est manifestement haineux. Manifestement haineux, ça veut dire manifestement illégal. Ça n'est pas une opinion, c'est un délit.
Un délit.
Donc l'injure, la diffamation, l'incitation à la haine, conformément à la loi de 1880 en raison de l'appartenance réelle ou supposée à une origine, nationalité, etc. Donc de façon très inclusive, c'est des choses qui ne sont pas autorisé. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. On peut continuer à tenir tous les propos que l'on veut dès lors que, ils ne nuisent pas à autrui. Pourquoi est-ce que ça n'est pas de la liberté d'expression? C'est que depuis très très longtemps, 1789 en fait, c'est considéré comme des abus de liberté. Et selon la formule bien connue, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, pour répondre concrètement à votre question, il y a une obligation de retrait, à 24 heures par exemple, quand il y a un contenu qui est manifestement illégal. Il y a des modalités de signalement uniques, c'est aujourd'hui la croix et la bannière pour signaler un contenu. On sait pas ce qui arrive sur Twitter, c'est du grand n'importe quoi, on n'a pas de réponse, etc. Nous on propose qu'il y ait un système uniformisé de signalement transplateforme. On propose qu'il soit plus facile de porter plainte en ligne. On propose un système de prévention beaucoup plus efficace pour alerter les gens et pour aussi leur rappeler que, tenir ce genre de propos, même en ligne, c'est interdit. On propose un système de blocage des sites internet qui sont manifestement illégaux. Il y en a pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est quand même très compliqué parce que on est démuni sur ce terrain-là aussi. Il faut que les plateformes aient des obligations de transparence. Et puis, il faut que, je m'arrêterai là, si elles ne respectent pas toutes ces obligations, qui ne sont pas des obligations considérables, c'est ce qu'on appelle la régulation, c'est normal, elles puissent faire l'objet de sanctions importantes et vraiment dissuasives.
Toute une série de propositions, vous l'avez dit, qui feront l'objet d'une proposition, d'un projet de loi dès le mois de mai, c'est ce qu'a annoncé donc Emmanuel Macron la semaine dernière en marge du dîner annuel du CRIF. Vous disiez les réseaux sociaux, les plateformes, c'est la vie réelle.
Oui.
On a tendance à dire que c'est la vie virtuelle. Quelle est la différence entre ces plateformes et la vie courante de tous les jours, quelle différence entre la place publique, la rue et un compte Twitter ou Facebook? Est-ce que Internet est un accélérateur de la haine?
Oui, je le crois profondément. La différence, tiens, en un mot, c'est l'inhibition. Dans la vraie vie, on sait à peu près tous que en bas de votre studio, place de la République, on peut pas se mettre à hurler sale arabe, sale noir, sale juif, je vais te tuer, etc. On a tous à peu près conscience du fait que c'est interdit, et donc on s'inhibe par rapport à ça, et en fait par rapport à la loi. On sait tous ça. Sur Internet, c'est pas le cas, pour plein de raisons.
L'anonymat,
évidemment, l'anonymat ou le pseudonymat, plus exactement, sur lequel il n'est pas forcément question de revenir, mais il faut qu'on puisse, au moins, quand un individu tient des propos de ce type, qui peuvent être des menaces de mort sur le fondement de la religion, de l'orientation sexuelle, etc., etc. Il faut que la justice, et il faut qu'il y ait un juge dans le dispositif, puisse aller vite. Il faut qu'on puisse lever rapidement l'anonymat pour identifier des gens. Donc l'anonymat est une raison. Et puis le fait que on connaît peut-être, vous connaissez la loi de Goodwin, qui a été un des premiers à théoriser le fait que plus une conversation en ligne s'étend, plus la probabilité qu'un propos de nature nazie ou antisémite
se référant,
voilà, exactement, c'est quelque chose qui date d'il y a maintenant très très longtemps,
le qui fameux est même rentré point Goodwin.
Exactement, qui est même rentré dans le dictionnaire, je crois. Il y a plein de raisons qui font que en ligne, bon, ignorance de la loi, la désinhibition, l'anonymat, le fait que on est plus agressif quand on commente, je pense qu'on a tous eu cette expérience là d'être tout de suite dans une on s'auto-radicalise en quelque sorte. Et puis il y a aussi des éléments qui ne dépendent pas de nous. C'est la question des algorithmes, notamment, et de ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Et c'est manifeste à travers une petite frange des gilets jaunes. Eh bien, il y a des gens qui, et c'est pas de leur faute, qui s'intoxiquent en ligne parce que, c'est le cas sur YouTube, par exemple, l'algorithme vous propose toujours, toujours, toujours les mêmes types de contenus, et vous n'êtes exposé à aucune opinion dissidente, aucune opinion différente, et au bout d'un moment, vous finissez par croire, ou vous vous laissez embarquer, peut-être même embrigader, parce qu'il y a une sorte de fonctionnement un peu sectaire là-dedans, dans des opinions que peut-être vous ne partagiez pas au début, mais que en tout cas vous finissez par partager, épouser, mais qui peuvent vous conduire, encore une fois, eh bien, à commettre des actes répréhensibles.
Vous êtes beaucoup intéressé à la question de la discrimination, des inégalités, vous avez écrit des ouvrages à ce propos. Je voudrais vous faire réagir sur un fait d'actualité, c'est une polémique qui a fini par faire plier l'enseigne sportive Decathlon. Oui. Le groupe a annoncé mardi qu'il renonçait à commercialiser son hijab de sport, le foulard islamique de sport. Alors si la polémique a gonflé, il faut bien le dire, c'est à cause des tweets et des posts des femmes et des hommes politiques. Je pense notamment à la porte-parole des Républicains Lydia Girous. Tout d'abord, le hijab de sport contrevient-il au principe de laïcité, Karim Amelal?
Écoutez, moi j'ai une position, un principe assez clair, je crois, sur ce sujet. Je défends le droit et la liberté d'une femme en France, si elle le désire et non sous la contrainte, à porter un foulard, à porter un voile ou à porter un hijab, si elle le désire. Et de façon symétrique, puisque je suis d'origine algérienne, je défends le droit et la liberté d'une femme en Afrique du Nord, en Algérie par exemple, à porter un bikini sur une plage, si elle le désire, ou une mini-jupe. C'est ma position de principe. Je crois que tout est regrettable dans cette affaire de Decathlon. Je crois que, puisque l'enseigne a reculé, au fond, eh bien, les racistes ont gagné quelque part, hein, puisque c'est sous la menace eh bien, que Decathlon a été obligé de revenir en arrière. Je crois, pour répondre directement à votre question, que ça ne contrevient pas à la loi et qu'il est possible dans l'espace public, et que même la loi doit protéger ça, de porter un voile à certaines conditions. C'est toute la beauté de la loi de 1905.
Merci Karim Amelal.